Bonjour à chacun. Soyez les bienvenus pour ce culte et je suis heureux de pouvoir partager ce message avec vous aujourd'hui. En ce deuxième dimanche du carême, un des textes liturgiques qui nous sont proposés est celui du récit de la transfiguration de Jésus, rapporté dans les trois évangiles synoptiques, dont l'évangile de Marc, texte sur lequel je voudrais m'arrêter ce matin. Je vous rappelle que l'évangile de Marc est le premier évangile rédigé à Rome entre 63 et 68 de notre ère, soit 33 à 38 ans après la mort et la résurrection de Jésus en l'an 30. L'auteur, Jean, surnommé Marc, n'a pas vécu les événements qu'il rapporte, mais il était très proche de Pierre, qui a dû lui raconter ces événements si importants avec pas mal de détails. Marc était aussi très proche de l'apôtre Paul. Temporellement, la transfiguration se situe vers la fin de la troisième année du ministère de Jésus. Les disciples connaissent déjà, entre guillemets, bien Jésus et ils se réjouissent de voir venir le royaume de Dieu que Jésus instaurera. Dans le chapitre qui précède, chapitre 8, Marc rapporte que Jésus demande à ses disciples, d'après vous, qui suis-je? Pierre lui répond, tu es le Messie. Jésus sait que ses disciples passeront par des moments de crise profonde et de doute au moment de sa mort sur la croix. Jésus a donc le souci de préparer ses disciples en leur annonçant ce qui suit. Et je vais lire dans Marc 8, les versets 31 à 33. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La réaction de Pierre à cette annonce de Jésus montre bien que pour les disciples, la mort du Christ était inconcevable, voire choquante. Que le Messie meure, c'était inconcevable pour eux. C'est comme si un épidémiologiste vous avait annoncé en automne 2019 que 6 mois plus tard, notre planète passerait par une profonde crise sanitaire et économique avec de nombreux morts. J'aurais probablement répondu un peu comme Pierre, cher ami, cette impossible chez nous. Une telle crise, peut-être dans quelques pays en Afrique ou en Chine, mais pas chez nous en Suisse. Nous avons la suite du récit des évangiles, mais essayons de nous mettre dans la peau de ceux qui vivent ces éléments en direct, ces événements en direct. Lisons donc maintenant dans Marc 9, les versets 1 à 10. Jésus dit encore à ses disciples, Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants est d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vient les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressuscité. Cette dernière phrase qui concerne la résurrection montre bien que les disciples avaient sur le moment de la peine à comprendre ce que Jésus leur enseignait concernant sa mort et sa résurrection. Avant son entrée à Jérusalem, Jésus annoncera une deuxième puis une troisième fois sa mort et sa résurrection à ses disciples. Mais revenons au début du texte. Jésus parle du royaume de Dieu qui est à venir, que les disciples attendent et que quelques-uns parmi eux verront avant de mourir. Selon la chronologie et la succession des récits de Marc, on ne peut guère douter que la transfiguration de Jésus soit l'accomplissement de cette prophétie de Jésus. 6 jours après cette annonce, Jésus part à l'écart sur une haute montagne, prenant avec lui le trio de disciples habituels, Pierre, Jacques et Jean. Selon Luc 9, il se retire pour prier. La montagne évoque la proximité avec Dieu et la disposition à recevoir ses paroles. C'est sur une montagne que Dieu est apparu à Moïse dans Exode 24, à Élie dans 1 Roi 19. Les disciples que Jésus emmène sont des hommes influents, le cercle des intimes de Jésus parmi les 12. Pierre, homme impulsif, enthousiaste, souvent le premier à parler, dira de profondes vérités. Par exemple, « Tu es le Messie ». Mais Pierre reniera aussi le Christ et il s'en repentira. Par son discours à la Pentecôte, il ouvrira aux Juifs la porte du salut. De même, il ouvrira la porte du salut aux non-Juifs chez Corneille. Il sera un des premiers responsables de l'Église de Jérusalem et travaillera plus tard dans l'ombre à l'expansion de l'Évangile. Il sera crucifié pour sa foi, probablement à Rome, vers l'an 68. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, appelés aussi les fils du tonnerre, avaient demandé d'être à la gauche et à la droite de Jésus lorsqu'il régnera. En fait, c'est leur maman qui a plaidé, leur maman Marie qui a plaidé leur cause auprès de Jésus. Jacques, ambitieux, s'emportant facilement, sera profondément engagé envers Jésus. Jésus lui dit qu'il boira la même coupe que lui. Après avoir succédé à Pierre comme responsable de l'Église de Jérusalem, il sera le premier martyr parmi les disciples de Jésus et mourra par l'épée sur l'ordre du roi Hérode vers l'an 44, lors de la persécution de l'Église. Hérode voit que cette exécution de Jacques plaît aux Juifs et dans la foulée, Hérode emprisonne Pierre. On lit cela dans Acte 12. Pierre qui sera libéré miraculeusement pendant que l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu en sa faveur dans la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, c'est-à-dire la mère de l'auteur de l'Évangile de Marc. Jean, auteur de l'Évangile de Jean, frère de Jacques, est ambitieux lui aussi, prompt au jugement. Il sera rempli de l'amour de Dieu. Alors qu'il se tient au pied de la croix, Jésus lui demande de prendre soin de sa mère. Environ 6 décennies plus tard, il sera condamné par les Romains et sera exilé sur l'île de Patmos, où il écrira l'Apocalypse vers l'an 95, île où il a encore eu des visions, dont celle du Christ glorifié et du triomphe de Dieu sur le mal. Ce trio que Jésus a souvent pris à part contribuera plus tard grandement à la croissance et à l'affermissement de l'Église du Christ. Je suis persuadé que cet événement de la transfiguration, vision du royaume de Dieu, sera plus tard pour ses apôtres comme un encouragement dans leur futur ministère. Lorsqu'ils redescendent de la montagne, Jésus leur dit de ne pas parler de ce qu'ils ont vu avant la résurrection du Fils de l'homme. Je crois que ses disciples n'étaient pas encore en mesure de comprendre pleinement ce qu'ils venaient de vivre. La mort et la résurrection du Christ donnera à cet événement une perspective nouvelle. Les apôtres pourront alors en parler avec une intelligence renouvelée. En parler tout de suite amènerait de la confusion. C'est pourquoi Jésus leur demande de se taire à ce sujet pour l'instant. La vision éclatante de Jésus, qui s'entretient avec Moïse et Élie, effraie les disciples. Pierre, toujours prompt à parler, fait une suggestion étonnante qui montre sa perplexité, celle de dresser 3 abris pour Jésus, pour Élie, pour Moïse. Ce qu'ils ont vécu n'est pas pour ces 3 disciples un événement pour s'installer sur la montagne, mais un encouragement pour plus tard, pour les mettre en route dans leur futur service du Maître après son départ vers Dieu, son Père. La communion et le partage ici entre Jésus, Moïse et Élie sont une caractéristique du royaume de Dieu. Nous pouvons nous y exercer dès à présent, même si en ces temps de crise, c'est plus difficile et que ça demande peut-être un effort supplémentaire et de l'imagination, une imagination renouvelée. La nuée qui enveloppe Jésus, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean est une théophanie, une manifestation de la présence de Dieu le Père, comme dans le désert lors de l'Exode et au mont Sinaï lorsque Moïse reçoit les tablettes de la loi. Comme lors du baptême de Jésus, la voix du Père se fait entendre pour souligner la nature divine de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. La nuée disparaît et Jésus seul reste là présent aux côtés des disciples. La voix de Dieu élève Jésus au-dessus de Moïse et d'Élie et le désigne comme le Messie promis, revêtu des pleins pouvoirs divins. Moïse représente la loi et Élie les prophètes. Leur présence atteste que Jésus accomplit à la fois la loi et les promesses prophétiques de l'Ancien Testament. Jésus n'est pas une réincarnation d'Élie ou de Moïse. Il n'est pas non plus simplement un des prophètes. En tant que fils unique de Dieu, il les surpasse infiniment par l'étendue de son pouvoir et de son autorité. De nombreuses voix s'élèvent pour nous dire comment vivre et comment connaître Dieu personnellement. Quelques-unes de ces voix peuvent nous aider, mais beaucoup peuvent nous induire en erreur. Écoutons la Bible en premier lieu et examinons ensuite la valeur de toute autre autorité à la lumière de la révélation divine. Amen. Nous allons maintenant avoir un petit temps pour débattre en petits groupes